France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Alice Diop. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Comeau nous parlera du film Bones and All. 19h45, Affaires en cours, par Marie Sorbier. L'anthropologue et écrivain Jean Mallory fête ses 100 ans. L'occasion pour nous d'évoquer avec la galeriste Joëlle Rostowski une de ses passions cachées, le pastel. 19h50, Affaires à suivre, en compagnie du comédien, performeur, metteur en scène Yves-Noël Genot. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Félix Delacour et Jacques Hézubert à la prise de son. Bonsoir Alice Diop.
Bonsoir.
Votre film Saint-Omer est sorti aujourd'hui dans les salles de cinéma. Bien sûr, nous allons en parler, mais ça me donne l'occasion de vous recevoir afin d'en savoir un peu plus sur votre parcours, sur ce qui nourrit votre art, sur votre façon de faire des films. Alors, rappelez que vous avez grandi dans la cité des 3000, à Aulnay-sous-Bois, au sein d'une fratrie de 5 enfants, des parents qui avaient quitté le Sénégal pour la France en 1963. Et si je parle de vos parents, c'est qu'on va retrouver votre père dans votre mémoire de fin d'études avec un court-métrage intitulé « Mon père, ici et là ». Alors avant cela, on y reviendra sans doute, il y avait eu des études d'histoire africaine à la Sorbonne, puis après le master d'histoire, un DESS en sociologie visuelle à l'université d'Evry-Val-d'Essonne. C'est à la fin de ce DESS que vous réalisez ce court-métrage, Alice Diop. Qu'est-ce qu'il s'agissait d'approcher pour vous avec ce film ?
Je pense mon père. Je pense avec le recul de ses 20 ans, parce que c'est un court-métrage aujourd'hui qui a 20 ans et qui porte au fond la marque de tous les films qui vont suivre. Je crois que le grand bonheur d'avoir tourné ce film, c'est de posséder une trace du passage de mon père ici-bas. Et alors que j'étais effectivement dans un module de sociologie et que le thème initial, le sujet initial de ce qui est devenu ce film, était un mémoire autour des Chibani, autour des immigrés. Des immigrés, en fait, face à l'exil, et notamment les hommes maghrébins ou africains qui vivaient un peu entre deux mondes, dans cette impossibilité du retour au pays natal, mais enfermés, en fait, dans les foyers Sonacotra. Donc, j'avais commencé une enquête sociologique dans des foyers, notamment au foyer à Montreuil et à Voltaire, et dans des foyers à Voltaire, dans des grands foyers de la communauté Chibani. Et en fait, au fil de mes recherches, je me suis aperçue que la seule personne que j'avais envie de filmer était mon père. Et justement pour l'interroger autour de cette question de l'exil, autour de cette question de l'appartenance à ces deux mondes, autour de cette question de la limbe où il me semblait confiné, en fait. Et voilà, donc je suis passée d'un discours sociologique très théorique, finalement, à un film très humble qui se situe essentiellement dans le salon de mon père, dans son petit appartement d'Aulnay-sous-Bois, où il regardait frénétiquement des documentaires sur une Afrique absolument fantasmée et rêvée, une Afrique où il ne pouvait pas retourner. Et voilà, c'est un film très simple, très humble, mais au fond qui traite de questions profondément politiques à un endroit très intime. Et c'est ce que je ne vais cesser de faire après, sans même l'avoir formulé très clairement, mais aujourd'hui, avec le recul, je peux me dire que c'était vraiment de ça dont il s'agissait.
Oui, comment l'intime nous parle du collectif, de la société, on va le voir, c'est en effet quelque chose qui suit tout votre parcours, Alice Diop. Alors, dans ce parcours, avant ce film, il y avait eu un moment important durant vos études à la Sorbonne, quand une de vos professeurs projette un jour le film « Contes et décomptes de la cour » de l'anthropologue Eliane de la Tour, qui porte sur les femmes d'un harem au Niger, pour aller vite. Avant de parler de ce film, on écoute Eliane de la Tour en 2011 sur France Inter.
Jean Rouche tournait au Niger aussi, mais moi je travaillais dans la partie est et lui dans la partie ouest. Et puis il a tourné évidemment au Mali avec les Dogons. Et de le voir tourner me donnait très envie. Je trouvais qu'il avait de la chance par rapport à moi qui était avec mes carnets et qui était là pour générer toutes les sources dont j'avais besoin pour faire ma thèse. Et je me disais, je vais pas devenir un rat de bibliothèque. J'ai absolument besoin de cette relation ludique au terrain que donne la relation qu'on a à travers un film. Et parce que les gens sont impliqués on est impliqué avec les gens qu'on filme dans un destin commun. Alors que si vous êtes avec vos carnets et que vous demandez pour la énième fois comment on appelle le frère du mari, pour essayer d'établir un système de parenté, on ennuie tout le monde et les gens ne savent pas du tout ce qu'on est en train de faire. Une thèse, ça n'a pas beaucoup de sens. Un livre, peut-être un peu plus. Alors que le film, on est en relation immédiate et la position de l'anthropologue qui filme sur le terrain n'est pas la même que celui qui cherche des données, des informations, des observations qui iront dans un travail scientifique. C'est pas la même chose.
En quoi la découverte de ce travail d'Éliane de la Tour a été importante pour vous, Alice Diop ?
Exactement pour tout ce qu'elle dit, en fait. C'est d'une grande justesse. C'est exactement ça. Moi, j'étais dédiée à une thèse en histoire africaine à la Sorbonne. Et en fait, à la fois, j'avais l'impression de faire des découvertes extrêmement pertinentes, extrêmement puissantes, importantes. Importantes non pas que pour moi, mais pour la société dans laquelle je vivais. Mais j'avais un sentiment d'étouffement, paradoxalement, et le sentiment que, justement, il fallait... J'utilisais même le mot « démocratiser », que tout ce que j'apprenais, c'est-à-dire toute cette histoire coloniale qui ne m'avait jamais été racontée et qui éclairait ma vie intime, la femme que j'étais, les relations que je pouvais avoir avec mes parents, l'humeur, la mélancolie de mes parents, la migration, enfin qui est vraiment éclairait, mais vraiment profondément mon présent. Donc c'était des découvertes extrêmement fortes, mais j'avais l'impression qu'elles étaient circonscrites dans un cadre où il n'y avait aucun écho. Et tout d'un coup, découvrir qu'une thèse d'anthropologie, qu'un travail universitaire de sociologie, d'anthropologie, d'histoire, pouvait finalement prendre une forme sensible, et en prenant cette forme sensible, offrir la possibilité aux gens de partager en fait un savoir qui peut être extrêmement pointu. Ça a été pour moi la première rencontre avec le cinéma, c'est par effectivement l'anthropologie, quoi, par les travaux de Liane de la Tour, mais aussi par les travaux de Jean Rouch. Et ça, c'était vraiment quelque chose pour moi de saisissant. Et c'est marrant, je les ai découverts dans un cours sur les sources de l'histoire, en fait. Et d'une professeure qui s'appelait Hélène Daïmédatopor, qui est morte il n'y a pas longtemps, une grande historienne. Et c'est elle qui nous projetait dans le cadre de ce cours sur les sources de l'histoire, en fait, ces documentaires comme étant une source importante au même titre que des sources écrites ou des sources orales. Et vraiment, ça a été, j'ai changé complètement de perspective, complètement de carrière, grâce à la rencontre avec ce travail.
Alors justement, entre votre master d'histoire et votre DSS, il y a une année où vous allez beaucoup à la BPI, au Centre Pompidou, et où vous voyez beaucoup, beaucoup de documentaires, Van der Kuyken, Marker, Ackermann, Wiseman, beaucoup aussi. Ces films-là, ils vous nourrissent encore et toujours ?
Complètement, complètement. Le film de Wiseman, par exemple, pour ne citer que le film Wolfer, il m'a guidée même dans la réalisation de Saint-Omer. A priori, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Mais je me souviens très bien d'un des passages les plus importants du film, qui est une séquence autour d'une femme qui s'appelle Valerie Jones, qui lutte contre l'administration pour un problème de papier, ou en tout cas un problème administratif qui l'empêche d'obtenir, non pas que sa sécurité sociale, mais la possibilité d'avoir un logement. Enfin, c'est vraiment et c'est un plan séquence de 45 minutes sur le visage de cette femme, où on traverse toute la violence, en fait, tout l'écrasement d'une administration sur l'individu. Et c'est presque quelque chose de complètement saisissant. C'est une des scènes les plus fortes politiquement sur la violence, en fait, de l'institution, ce qu'elle fait au corps, ce qu'elle fait à l'âme, ce qu'elle fait aux gens. Et j'ai revu, en fait, le Wolfer au moment où je faisais les castings de Saint-Omer. Et j'ai envoyé ce segment de 45 minutes aux actrices, notamment à Gustav Jimalanda, qui interprète Laurence Colli dans mon film, pour la guider dans cette question de l'émotion, finalement. Comment traverser, en fait, tout un registre émotionnel dans des longs plans en séquence comme ça. Enfin, les films de Wiseman continuent absolument à m'habiter. Ouais.
Alors, ensuite, vous êtes revenu à Aulnay-sous-Bois et en Seine-Saint-Denis pour filmer ce coin de France en tant que coin de France et représentatif de la France. Il y aura La Tour du Monde, Clichy pour l'exemple, La Mort de Danton, La Permanence vers la tendresse, Nous. Mais à chaque fois avec des dispositifs différents, Alice Diop, à chaque fois avec des personnes différentes, mais toujours avec cette idée que c'est à travers les individus qu'on peut parler, penser la communauté.
Complètement. Complètement, mais c'est vrai que je pense qu'additionner ces films...
C'est une histoire de France d'aujourd'hui.
Mais je pense, mais en fait, je peux que penser à posteriori, parce que en fait, c'est que des la mort de Danton, c'est la rencontre avec Steve que je connais depuis petite, parce que depuis l'enfance, puisqu'on a grandi ensemble, ça vient vraiment en fait de questionnements que je me pose à un moment très précis, et ce moment très précis, c'est l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, c'est l'émergence de figures médiatiques telles que Ramayad et Rachida Dati et tout le discours autour de la méritocratie républicaine qui entoure en fait l'émergence en fait de ces personnalités-là, avec un espèce de discours aussi un peu à double revers finalement, qui renvoie à leur propre responsabilité tous ceux qui n'ont pas eu l'opportunité finalement de sortir du déterminisme social. Et en fait, mes lectures de Bourdieu, mon expérience intime, mon expérience empirique, c'est-à-dire ce que je vois autour de moi, en fait, contredit en permanence, ne cesse de contredire en fait ce que j'entends, ce que l'on dit à partir de ces figures symboliques. Et du coup, je rencontre Steve, il me raconte ce qu'il vit, c'est-à-dire qu'il décide, sans l'avoir dit à personne, d'entamer une carrière d'acteur et de commencer une des études au cours Simon. Et je vais le voir comme ça la première journée, et en fait ce que je vois de lui, de ce corps, de ce grand homme noir à l'intérieur de cette école, me raconte quelque chose de la société dans laquelle je vis, et quelque part travaille et traverse et questionne exactement tous ces thèmes de la méritocratie, de qu'est-ce que ça veut dire finalement d'accueillir, qu'est-ce que ça veut dire de penser la question minoritaire, qu'est-ce que ça veut dire de penser l'autre, de penser de Steve qui veut jouer Danton parce qu'il s'estime plus proche de Danton que de n'importe quel rôle d'activiste noir-américain que alors ses profs lui demandent de jouer et qu'il ne comprend pas parce que c'est pas sa culture, et que lui il veut jouer Danton parce qu'il a vu le Danton de Vajda, il a vu Depardieu, et en fait il a voulu être comédien parce qu'il s'est reconnu en la figure de Gérard Depardieu, et ça son prof ne le comprend pas et lui renvoie systématiquement des rôles de noir, et en fait il veut qu'il joue des rôles de noir alors que lui il veut jouer des rôles. Et en fait tout ça, toutes ces questions hyper sensible, hyper subtile, finalement s'incarne dans ce lieu, et en fait ce lieu me parle de quelque chose de plus grand, il me parle de nous en fait, et j'ai l'impression que tous mes films au fond ne cessent d'interroger la société française en fait. C'est des films absolument français. D'ailleurs, jusqu'à un certain temps, mes films ont très peu voyagé et commencent à voyager depuis quelques années, mais c'est des films très franchouillards en fait, qui interrogeaient la société française, mais à l'endroit de la marge. Et c'est quelque chose que je constate, c'est pas quelque chose que j'ai pensé en le faisant si clairement, mais je ne peux que le penser aujourd'hui que j'additionne ces films, et je me dis, mais en fait, effectivement, c'est ça que j'étais en train de dire, c'est ça que j'étais en train de faire.
Bon, alors aujourd'hui, Saint-Omer représente la France aux Oscars, donc ça voyage beaucoup, mais comme vous parliez de marge, allez se dire, mais pour rester sur les questions de territoire, il faut dire qu'avec le département cinéma du Centre Pompidou ou les ateliers Médicis à Clichy-Montfermeil, vous avez initié le projet d'une cinémathèque idéale des banlieues du monde. Là encore, avant d'en parler, écoutez cette archive de la radio en avril 1960.
Monique Berger, Marcel Carnet a commencé un nouveau film, Terrain Vague. Vous l'avez rencontré hier après-midi sur ce terrain vague.
Je l'ai vraiment rencontré, je puis vous l'assurer, dans un terrain vague où il était là, dans le vent, avec tous ses jeunes comédiens et ses techniciens.
Ben oui, comme vous voyez, puisque nous sommes à la porte de Saint-Ouen, enfin entre la porte Lignancourt et la porte de Saint-Ouen, sur un lieu où viennent d'être construits des HLM.
Et qui sont assez jolis du reste.
Qui sont assez jolis, je reconnais. Mais et qui forme, si vous voulez, le centre de l'action de ce film, c'est-à-dire que ce film met en scène une bande de gosses, une bande d'adolescents de 16 à 17 ans qui vivent dans ces immeubles, un petit peu, je dois dire, faut bien le dire, un petit peu les uns sur les autres. Ces gosses souffrent un peu d'abandon, de ce que les juges d'enfants appellent une carence affective, et ont formé entre eux un petit monde, enfin une bande, qui est une bande, mais une bande d'enfants, mais pas un gang du tout, mais qui est une bande qui se réunit dans une usine désaffectée de l'autre côté du boulevard, enfin dans Saint-Ouen même, une usine désaffectée, et c'est une bande qui a ses rites, qui a son cérémonial, ses scènes d'initiation par exemple.
Aha.
Et ces gosses qui sont un peu livrés à eux-mêmes, pencheront-ils du mauvais ou du beau côté ? Ce sera un petit peu le thème du film.
Terrain Vague, 1960, est-ce que, je ne sais pas s'il est déjà ou est-ce qu'il pourrait arriver dans cette cinémathèque idéale ?
Je crois qu'il est absolument déjà dans la cinémathèque idéale. Ouais.
C'est un des premiers films français sur cette idée de banlieue. Vous en êtes où de ce projet, Alice Diop ?
En fait, il continue sous forme d'une séance mensuelle au Centre Pompidou. On a été un peu dépassé par le succès de la première édition, les salles étaient absolument pleines. Et en fait, on mettait en relation des films tellement dissemblables les uns des autres et dont on n'aurait pas idée. Donc, peu de gens auraient eu l'idée d'accoler à cette cinémathèque idéale des banlieues. Il y avait par exemple des films de Duras, un film comme Le Camion que j'aime énormément, profondément, des films de Rabat et Meurzaïmèche, un film de Claire Denis, 35 Roms, que je cite à chaque interview, tant c'est un film très très important pour moi. Des films très très étranges. Et en fait, l'idée de cette cinémathèque était un peu d'interroger, de tordre le cou, en fait, à ce cliché du cinéma de banlieue, en fait, qui est presque une invention de critiques paresseux. Qu'est-ce que c'est que le cinéma de banlieue? Qui sont les cinéastes de banlieue? Et en fait, dans ce terme-là, enfin, moi, j'ai souvent été très agacée, en fait, d'être renvoyée systématiquement à cette question-là. Parce que j'ai l'impression qu'on ne me voyait pas comme une cinéaste. En fait, pendant longtemps, je souffrais du fait de ne pas être regardée comme une cinéaste, mais uniquement comme une porte-parole. Une porte-parole de ces territoires, avec l'idée déjà que cette posture de porte-parole-là vous isole beaucoup, parce que finalement, je pense que la banlieue, elle est tellement multiple, et je pense qu'elle nécessite des voix singulières, mais absolument diversifiées, et qu'on est nombreux et nombreuses à pouvoir et à devoir raconter ces territoires à un endroit qui est le nôtre, et c'est pas le même. C'est-à-dire que je fais pas les mêmes films que Jelajli, je fais pas les mêmes films Kouda, je fais les mêmes films que Rachid Jaidani, et le fait de nous enfermer tous dans ce mot-là, c'est aussi une manière d'invisibiliser nos singularités. Et c'était tout ça que j'avais envie d'interroger avec cette question de la cinémathèque, tout autant que de réfléchir à cette mémoire aussi effacée de ces films, finalement, qu'on ne nous a pas transmis. Moi, j'ai redécouvert des films de Medondo, par exemple, tournés dans les années 70 dans la banlieue de Paris, que j'avais jamais vu. J'ai découvert le travail de collectifs, de cinéastes comme le collectif Mohamed, qui était très actif dans les années 80 et qui filmait justement à leur endroit les conditions sociales avec une poésie, une puissance formelle absolument bouleversante, mais des films qui ne sont jamais arrivés jusqu'à nous, qui ont été complètement effacés, remplacés systématiquement par des nouvelles figures proclamées comme des porte-paroles. Enfin, donc tout ça, c'était une manière à la fois d'interroger cette mémoire effacée, cette mémoire silencée, de donner à voir en fait des chaînes de transmission aussi entre les films, et d'éclater et d'interroger en fait la question de qu'est-ce que c'est qu'un cinéaste de banlieue.
Que l'historienne Alice Diop est toujours active et c'est important évidemment de faire ce travail-là. Nous, on va s'éloigner de la banlieue pour aller vers Saint-Omer. Mais avant d'en parler, votre choix musical, Alice Diop, qui s'est porté sur In a Silent Way, enregistré par Miles Davis en 1969. Alors, très très bien entouré, puisqu'il y a Wayne Shorter, John McLaughlin, Chick Corea, Herbie Hancock, John Zawinul, Dave Holland, Tony Williams. Bon, on ne va pas l'écouter en entier parce que le morceau fait presque 20 minutes. Pourquoi ce choix, Alice Diop?
Parce qu'il fait 20 minutes et qu'il est plus important que mes mots, sans doute.
Non, pas ce soir.
Des fois, le silence, il est plus important que les mots. Non, mais parce que je suis une grande, grande fan de Miles Davis et que ce morceau particulier, je l'ai écouté lors d'un trajet il y a 2 ans et c'est un morceau qui m'a emmené vers la grâce. C'était très beau.
Bon, on en écoute un passage ce soir et évidemment que toutes celles et ceux qui le souhaitent écoutent en entier chez Élèves. On en vient à Saint-Omer, sorti aujourd'hui sur les écrans. Point de départ de ce film, on va écouter un reportage de Charlotte Piré sur France Inter le 19 juin 2016.
Le corps d'une fillette de type européen a été retrouvé par des pêcheurs. Son identité et les causes de sa mort restent encore inconnues. Le récit de Mathieu Darrier.
Il s'agit d'un enfant de 2 ou 3 ans.
Aucune disparition d'enfant n'est alors signalée, mais quelques jours plus tard, sa mère est identifiée et soupçonnée. L'émotion grandit. Sur la plage de Berck, une marche blanche regroupe près de 600 personnes.
Si elle ne voulait pas la garder, la petite, qu'elle avait chez quelqu'un. Mais là, c'est vraiment affreux, qu'est-ce qu'elle a fait?
À un mois de Noël, elle n'est plus là. Franchement, là, moi, je trouve que c'est inadmissible de tuer son enfant comme ça.
Le jour même, la mère de la petite Adélaïde reconnaît avoir abandonné sa fille sur la plage, à la marée montante. À la sortie du bureau du juge, la foule se déchaîne contre son avocate, maître Fabienne Roy-Nancion.
Je ne critique pas l'opinion publique qui crie à mort, qui veut assassiner Fabienne Cabou. Admettre l'infanticide, c'est très compliqué. Parce que ce sont des crimes odieux. C'est, à mon sens, le pire crime que l'on puisse commettre. Mais c'est surtout un crime qui nous sidère. Je crois qu'il faut sortir de cette sidération, mettre les choses en perspective et essayer de marcher sur le chemin de l'humain.
Fabienne Cabou, qui comparaît pour assassinat, encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Voilà, c'était sur France Inter en 2016, Alice Diop. Mais comment, de ce fait-là, un film va naître, vous concernant sa origine? Comment, ce film-là? Dans quoi?
Alors d'abord, je dois dire que c'est très troublant pour moi d'entendre ces images que je n'avais pas entendues à l'époque. Enfin, c'est son d'entendre ces images, c'est beau, ce lapsus.
C'est beau, c'est beau.
De faire des lapsus en ce moment, d'entendre ces images. D'entendre ces sons que je n'avais pas écoutés à l'époque. En tout cas, j'ai pas du tout écouté précisément ça. Et l'écoutant aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est précisément la note d'intention de mon film. C'est-à-dire que c'est comme si le film répondait au cri de cette foule, en fait. Et presque comme si le film répondait, le film s'ouvre sur des images de femmes tondues à la libération qui sont sujettes à la vindicte populaire. Et en fait, les scènes de tribunal s'ouvrent sur le rituel qui m'a absolument fascinée de la nomination des jurés, avec quand même cette idée de la confiance que j'ai dans l'institution judiciaire. Et moi, ce qui m'a fascinée, en tout cas parce que j'ai assisté au procès de Fabienne Cabou, ce qui m'a fascinée, c'est à quel point cette cour d'assises était une tentative très étrange, parce que c'est de cerner le mystère de cette femme, même si on n'y est pas arrivé, même si le mystère reste entier et le film n'a pas la prétention de vouloir éclaircir ce mystère. Le film travaille à partir de ce mystère, mais en tout cas cette l'idée de l'institution judiciaire qui va écouter, pour moi, l'acte de juger, c'est de donner à entendre, finalement, la parole de l'accusé. Et tout le film tente de donner à entendre la parole de l'accusé. Et pour moi, c'est l'acte de justice le plus important. Et qui répond à ces cris de la foule, qui répond à ces vindictes populaires, qui répond à ces cris de peine de mort. Enfin, c'est fou. C'est complètement fou d'entendre ça et à quel point ça résonne, finalement, même avec la structure narrative du film que j'ai fait.
Alors, vous dites que ça commence par ces images à la libération de ces femmes tondues en public, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que le film il commence par une respiration. Oui, des respirations, vrai. Il va y en avoir beaucoup tout au long du film, elles vont même devenir parfois musique, ces respirations. Mais qui respire dans votre film?
Toutes les femmes, je pense, nous toutes, je crois, ou nous tous, on respire, on est suspendu au souffle de cette femme, à ses mots, on est suspendu à ses mots, je crois, on retient notre respiration tellement. On est affecté, tellement on plonge aussi à l'intérieur de nous. Moi, c'est l'expérience que j'ai vécue, très, très, très physique, en fait. J'ai vécu une expérience très physique au procès de Fabienne Cabou. Et je crois que le film porte la trace de cette expérience physique, de cette physicalité. C'est un film qui éprouve beaucoup. Et c'est un film qui libère, enfin, j'espère. En tout cas, c'est le retour des spectateurs. C'est un film qui met le spectateur en action, quoi. Vraiment, il y a quelque chose où on retient son souffle, comme ça, à l'écoute de cette femme, de ce qu'elle nous dit, de ce qu'elle nous raconte, et ce que ça charrie, ce que ça bouleverse, ce que ça bouge à l'intérieur de nous. Ouais, la mer monte, vraiment. C'est un film, ouais, vraiment fait de respiration. Ouais.
Alors, ce qui est très beau aussi, c'est que, par exemple, dans le un exemple important. Dans le début de la première audience, ça renvoie évidemment à votre travail de documentariste, Alice Diop, mais enrichi par votre œil de cinéaste de fiction. C'est une très longue séquence qui suit la procédure, l'énoncé des faits. Il y a aussi la durée des regards. Cette séquence, comment est-ce que vous avez travaillé à la fois son découpage et son montage? Qu'est-ce qui s'écrit avant et qu'est-ce qui s'écrit au montage?
Bah, c'est vrai que ça part d'une observation très minutieuse. Et ça, pour le coup, c'est presque... Et c'est pas un décalque du réel, mais c'est l'essence de quelque chose que j'ai vu, en tout cas. Et ce que j'ai vu, c'est une société convoquée, comme ça, dans un rituel très organisé, pour juger cette femme. Et ce que j'ai et dans la récusation ou dans l'acceptation des jurés, il y a quelque chose qui se dit déjà de récuser une femme qui s'appelle Yamina quand on juge une femme noire qui s'appelle Laurence Colli, quand on réfute aussi une femme blanche d'un certain âge mais réfutée par l'avocate de Fabienne Cabou, ça dit aussi quelque chose de ce qu'on projette sur la personne qui va et sur la part de personnel, intime, sociologique, culturel, en fait, qui préside au jugement de l'autre, au jugement de cette femme. Donc ça, c'est vraiment une observation minutieuse je m'appuie sur ça. Je m'appuie sur ce que j'ai vu très précisément, sur ce que ça me raconte de presque de politique, et je décide, voilà, de le filmer, de le mettre en scène dans une forme de performance du réel. Revisiter. C'est-à-dire que ces longs plans séquences, on a l'impression tout d'un coup qu'on assiste vraiment à un morceau de réel, à un morceau de présent. Il y a quelque chose. Et d'ailleurs, moi, j'ai revu le film dans une salle de cinéma qui était configurée exactement comme l'était la salle du tribunal de Saint-Omer. Et j'avais pas revu le film depuis Venise. Et j'ai eu tout d'un coup, j'ai eu une expérience physique qui validait exactement la mise en scène. C'est-à-dire de mettre le spectateur exactement à la même place que le spectateur de cette cour d'assises. Et j'étais exactement au même endroit. J'étais assise là dans la salle et j'avais l'impression devant la taille de l'écran d'être carrément dans le direct d'un procès. Enfin, il y avait quelque chose d'assez saisissant et je me suis dit en fait c'est exactement cette sensation que j'ai tenté de retravailler au tournage, de retravailler au montage, c'est-à-dire ces longs plans séquences aussi, la question de la durée, la question de la physicalité en fait du réel, et quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec ma monteuse et qui est par ailleurs ma co-scénariste parce que j'ai écrit avec Amrita David qui m'accompagne sur tous les montages de mes films, et je pense que c'est assez signifiant finalement. Il y a des choses qui sont passées au-delà des mots, c'est-à-dire on a une telle habitude de travailler ensemble que c'est presque quelque chose qu'on a fait sans avoir besoin de le formuler. Voilà, je sais pas si ça répond tout à fait à...
Ah si, complètement, mais...
Je suis en train de digresser tout le temps, mais...
Pas du tout, c'est tout sur de l'agression, c'est au contraire des précisions, et précisons encore que celle qui observe dans le film, c'est Kaiji Kagame, qui joue le rôle de Rama, cette écrivaine qui est enceinte, qui... je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais ce regard-là... Il y a une sorte de double regard, le spectateur qui est dans les yeux de Rama, qui regarde Laurence Colli.
Et je dirais même que c'est Rama qui nous permet d'écouter et regarder Laurence Colli. Et sans Rama, on ne saurait pas, en tout cas je n'aurais pas compris, pourquoi, quelle aurait été la place juste d'un spectateur. J'aurais pas eu envie de convoquer un spectateur... à l'écoute de ce fait divers si sordide. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est la dimension tragique, c'est la dimension mythologique, et c'est la façon et la manière dont le récit de cette femme questionne finalement la maternité, questionne la mère, questionne le lien entre une mère et son enfant, questionne quelque chose de profondément insondable. Et enfin, en tout cas, moi, c'est ça qui m'intéressait profondément. Et c'est par le truchement du personnage de Rama que ces enjeux peuvent être précisés. Si à part Rama, je ne sais pas quoi regarder, en fait. Je ne sais pas quoi écouter. Et surtout, je n'ai pas envie d'écouter. Je n'ai pas envie d'écouter une femme qui raconte comment elle a noyé son enfant dans l'eau. En fait, j'écoute une femme qui a offert sa fille à la mère. Donc j'entends quelque chose parce que je l'écoute à l'aune d'une femme qui elle-même est enceinte, qui ne peut pas le dire à sa propre mère et qui va faire un trajet pour éclaircir en elle-même ses zones troubles. Et en fait, elle peut le faire parce qu'elle écoute cette femme qui est une espèce de version la plus extrême d'elle-même, qui est une... Enfin, il y a beaucoup de choses. Je peux même pas forcément nommer en fait ce qui se passe entre Rama et et Laurence Colli, je peux pas moi encore aujourd'hui nommer ce qui s'est passé entre moi et Fabienne Cabou, ce que j'ai projeté en elle, ce que j'ai vu de moi, ce que j'ai compris de moi, je peux pas tout dire. J'ai l'impression que le film le dit beaucoup mieux qu'aucun des mots que je peux poser là sur les intentions souterraines de ce film.
Mais vous parlez d'écoute, Alésia, puis il y a cette écoute aussi de la langue, si précise, de l'accusé, une langue qui étonne. C'est peut-être aussi un des sujets importants du film, qu'on s'étonne qu'une femme noire nous parle comme beaucoup aimeraient pouvoir écrire. Vous avez cité Amrita David, co-scénariste de ce film, également Marine Diaye, dans ce travail sur le texte. Quelles ont été les circulations de désir entre vous sur la restitution de cette langue?
Bah c'est sûr, c'est une fascination commune. Ça a été une fascination commune pour l'extraordinaire qualité et tout ce que cette langue nous disait, en fait. Tout ce qu'elle nous raconte, cette langue. Tout ce qu'elle me raconte. Je pense que la matière première du film, d'ailleurs, c'est la langue de Fabienne Cabou, puisque le film est écrit à partir du verbatim très précis des minutes du procès, que m'a par ailleurs aidé à constituer les tweets de Charlotte Piré, la journaliste de France Inter que vous citiez tout à l'heure, qu'on écoutait tout à l'heure. Et effectivement, en fait, le film naît de cette langue, de ce que cette langue me disait, que cette langue me raconte, et de cette femme si mystérieuse qui s'exprime avec une précision, avec une clarté absolument sidérante pour dire quelque chose de si mystérieux, finalement. Et c'est peut-être parce que cette langue est si précise, que cette langue est si châtiée, que cette langue est si empruntée, qu'on peut écouter au-delà de l'horreur du crime. Donc il y a presque une mise en récit, c'est comme si elle mettait en récit, en fait, son le crime pour qu'on puisse entendre véritablement ce qu'il a à nous dire. Et ça, je pense que quelqu'un qui ne s'en serait pas exprimé de la même manière qu'elle ne m'aurait pas intéressé déjà, et je pense aurait eu un destin, même judiciaire, beaucoup plus différent, parce que cette langue aussi la met à distance, cette langue ne donne pas la possibilité de l'empathie, cette langue là, et en fait est presque une langue qui assigne le spectateur, enfin celui qui l'écoute, dans une position d'infériorité, parce qu'elle est tellement puissante. Et en même temps, cette langue qui fait tant parler les journalistes, c'est-à-dire cette langue énoncée par une femme noire, en fait, elle vient faire vaciller tous les fantasmes, toutes les certitudes, elle vient nous faire rencontrer aussi quelqu'un que l'imaginaire collectif n'a pas l'habitude de rencontrer, une femme noire si lettrée, si intellectuelle, qui travaille sur une thèse de Wittgenstein. Et donc moi, à l'écoute de cette femme, de ses mystères, de sa puissance, de sa complexité, immédiatement, je pense à Marine Diaye. Et je me suis dit, effectivement, en fait, je suis dans un roman de Marine Diaye. C'est-à-dire que dès que je sors du procès, j'en rigole avec Amrita. Et quand on commence à travailler avec Amrita à partir des minutes de ce procès, on tente d'élaguer, de commencer un peu à structurer cette pensée. On sent tout de suite que la fiction est fondamentale pour en révéler les enjeux. Et très, très naturellement, en fait, on décide d'appeler Marie, qu'on ne connaît pas. Et on lui écrit une lettre, toutes les deux, en lui disant ça. En fait, voilà, on a assisté à ce procès et on a l'intuition que ça pourrait vous intéresser. Et l'intuition est absolument bonne, puisque Marie a suivi, elle aussi, le procès avec énormément de curiosité, de fascination. Et notre rencontre est évidente, en fait.
Et dans la minute qui me reste, qui nous reste dans cet entretien, je me demande parfois qu'on me souffle des questions. Et là, Marine Diaye avait une question à vous poser. Alors, je vous la livre. C'est donc Marine Diaye qui s'exprime par ma voix. Ma très chère Alice, toi qui, après De Pardon, Wiseman et d'autres encore, bien sûr, as su conjuguer honnêteté du documentaire et impérieuse volonté artistique, que sera ton après Saint-Omer, l'étrange virus de la fiction, t'a-t-il atteint à jamais ?
Je pense qu'il m'a. Je pense que ce frottement entre la matière documentaire et la possibilité qu'offre la fiction est la chose qui m'intéresse le plus, en tout cas dans mon espace de créatrice. Et je pense que je vais continuer à naviguer entre ces deux eaux. J'ai pas encore une vision très claire du prochain, mais je pense qu'il s'arrime à un matériau très 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 documentaire où finalement. Où la fiction va avoir un moment sa place. J'en ai l'intuition, en tout cas.
Pour l'instant, profitons de votre film Saint-Omer qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Allez le voir le plus vite, le plus tôt possible, le plus de fois possible aussi, parce qu'on peut avoir besoin de le voir plusieurs fois. Merci infiniment, Alice Diop, d'avoir été ce soir notre invitée.
Merci.
France Culture, Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
C'est maintenant l'heure d'Affaires Critiques. Bonsoir Lucille Gomeau.
Bonsoir Arnaud.
Vous êtes allé voir le film Bones and All, sorti aujourd'hui en salle.
Bones and All, oui, les os et tout le reste. Vaste programme pour cette romance cannibale signée Luca Guadagnino, réalisateur italien à qui on doit Call Me By Your Name, sorti en 2017, qui racontait l'amour naissant et l'éveil à la sexualité d'un jeune homme le temps d'un été en Italie. Fait étonnant, ce film rassemblait Timothée Chalamet et l'acteur américain Armie Hammer, désormais persona non grata à Hollywood, précisément parce qu'il aurait abusé de ses compagnes avec des tendances cannibales. C'est sans doute ce qu'il y a de plus malaisant, car le film, lui, en soi, malgré son titre, est assez inoffensif. À l'orée de Bones and All, il y a une jeune fille, Maren. Elle vit avec son père dans un mobilhome d'un bled paumé des États-Unis. On est à la fin des années 80. Elle va au lycée. Un soir, elle fait le mur pour rejoindre ses copines qui font une pyjama party. Jusque-là, tout va bien. Les filles discutent, essayent différentes teintes de vernis à ongles, se rapprochent, jusqu'à ce que Maren se saisisse du doigt de l'une d'entre elles pour aussitôt le dévorer jusqu'à l'os. À partir de là, Maren se retrouve livrée à elle-même, contrainte de fuir avec une idée en tête, retrouver une mère qu'elle n'a jamais connue et qui, elle l'imagine, pourrait lui expliquer en quoi elle est spéciale. Alors ce début est assez saisissant, qui joue sur les codes connus du teen movie américain et du film d'horreur. Un mélange qui fonctionne plutôt et qui rejoue un récit à la mécanique bien huilée, mélanger le surnaturel, l'horreur et la découverte de la sexualité. Ça a fait le beurre notamment de la franchise Twilight, à ceci près que Guadagnino déploie la romance dans une forme auteuriste typique d'un cinéma américain indé. Très vite, le teen movie disparaît et le film prend la forme d'un road trip dont le héros finalement n'est pas tant la jeune marraine jouée par la toute jeune et ravissante Taylor Russell que son compagnon interprété par Timothée Chalamet, tout en os lui aussi et crinière orange qui intéresse, on le sent, beaucoup plus Guadagnino.
Et vous aussi, je crois, Lucille Gomeau. On a l'impression que Bones and All ressemble beaucoup justement à Call Me By Your Name.
Oui, c'est un peu la même chose, arrangé différemment avec cet élément de genre qu'est le cannibalisme. Dans Call Me By Your Name, le héros découvrait de manière compliquée, à la fois cruelle, douce et excitante, son homosexualité auprès d'un autre homme, mais aussi celle de son propre père. Dans Bones and All, la découverte amoureuse passe par une autre communauté et un autre héritage, celle des eaters, les mangeurs d'hommes, dont la spécificité se transmet de parents à enfants, contraints de vivre solitaires pour la plupart et qui errent sur les routes désertes d'une Amérique en marge, métaphore un peu lourdaude parfois de la marginalité sexuelle. Le problème, c'est qu'on s'ennuie vite. D'abord parce que cette histoire d'amour, contrairement à celle que nous décrivait son précédent film, peine à émouvoir ou à exciter, faute d'incarnation. Ce couple-là, on n'y croit pas. Et d'ailleurs, la seule scène de sexe un peu intéressante est une scène extérieure à leur couple qui se passe entre deux hommes dans un champ de maïs la nuit. Par ailleurs, le côté un peu sophistiqué et doucereux du cinéma de Guadagnino, que moi j'aime bien, par ailleurs, neutralise l'aspect horrifique la plupart du temps et compromet un des intérêts majeurs du film, les scènes où en effet des gens mangent des gens. Ce n'est jamais sale, ni glauque, et le sang séché sur les ongles de Chalamet ne peut pas nous faire oublier qu'il est surtout beau comme tout, même chose pour sa petite compagne. Par ricochet, l'Amérique déshéritée qu'il nous montre avec ses maisons pourries, ses stations-service et ses fêtes foraines minables font décor, joli décor, trop joli pour qu'on s'effraie ou qu'on se dégoûte. Un personnage vient cependant mettre un peu de noirceur et d'inquiétude dans le tableau, interprété par cet acteur génial qui est Mark Rylance, qu'on voit notamment régulièrement chez Spielberg. Il campe un hitter, mi-indien, mi-bavarois, qui parle de lui à la troisième personne du singulier, se tient bizarrement et tresse les cheveux de ses victimes en une longue corde qu'il conserve toujours avec lui. Lui semble venir dans le film d'un autre cinéma qu'on aurait sans doute préféré voir.
Ah bah mince alors, il y avait un vrai film dans le film, mais...
C'est
pas le bon.
Dommage.
Bones and All de Luca Guadagnino, le film est sorti aujourd'hui en salle. Un autre registre à présent avec Affaires en cours, et vous Marie Sorbier, bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Jean Mallory, fête ses 100 ans.
Oui, l'anthropologue, l'écrivain Jean Mallory personnifie peut-être à lui seul la défense des peuples arctiques. Il contribue en tant que scientifique et en tant qu'artiste à renouveler le regard que nous portons sur les peuples premiers et les civilisations traditionnelles. Dans un texte paru dans le cahier de Lerne qui lui est consacré, il dit que l'écriture et la photographie sont devenues comme ses propres membres. Il évoque aussi en quelques lignes pudiques des pastels qu'il peint, alors je le cite, non pas pour exprimer le champ de blé que j'avais alors sous les yeux, mais un paysage arctique précis qui m'habitait avec une telle vérité que j'y étais précisément. Je suis allée demander à Joël Rostowski qu'elle nous présente cette passion un peu cachée de Jean Mallory, ses pastels.
Joëlle Roskowski, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ethnologue, vous êtes galeriste également, spécialiste des cultures amérindiennes d'Amérique du Nord. Qu'est-ce que les pastels de Jean Mallory nous disent de son travail en Arctique ?
Justement, comme vous le disiez, en fait, ces pastels ont été un moyen d'expression complémentaire qui allait au-delà de sa photographie excellente, on se souvient de l'Appel du Nord, ce très beau livre, et de sa filmographie. Il voulait justement représenter ce paysage arctique qu'il a habité toute sa vie. Et voilà déjà 40 ans, en fait, qu'il a pris les craies et que, sous l'impulsion des Inuits, il s'est mis à refaire des pastels.
Alors, on le sait, écrivain, photographe, vous l'avez dit, des films également ont accompagné son travail. Qu'est-ce que le pastel, précisément, ajoute à la transmission du monde inuit, selon vous ?
Alors, la contemplation, en fait, du monde polaire a fait partie de son travail à l'origine de géographe, comme on le sait, ensuite d'ethno-historien, d'enseignant, d'éditeur. Et il a fallu qu'il touche, en fait, avec ses mains, ce matériau qu'il allait, en fait, exprimer sur la toile, sur le papier, pour véritablement se rendre compte à quel point ce paysage était transmissible et à quel point il pouvait partager sa vision personnelle de ce monde de la nuit polaire.
Alors justement, vous parlez de nuit. Quand on regarde ces pastels, là, on les a sous les yeux dans votre galerie, certains d'entre eux, on sent l'emprise que peut avoir un paysage sur l'homme, parce que dans ces étendues blanches à l'infini, c'est comme ça qu'on s'imagine ces paysages-là, Jean Mallory, lui, peint le noir. Alors que cherche-t-il ?
Alors justement, ce travail sur le noir, sur la nuit polaire, c'est vrai, c'est comme ça qu'il a commencé. La façon dont la lumière peut traverser la nuit, la façon, le jeu du noir et du blanc, comment l'un et l'autre se complètent, sont en contraste et comment, à travers justement ces pastels, et pouvoir exprimer ce jeu de la lumière. Alors c'est vrai, on a du blanc, du noir, on a aussi des bleus très pâles, on a quelques flamboiements de carmin par moment, et ces moments de la transition, c'est-à-dire le crépuscule et l'aube, qu'il affectionne tout particulièrement et qui lui permet de mettre en jeu cette idée de la création du monde, de la fin du monde, de l'envol des hommes dans le ciel arctique, de la toundra. Et donc, en fait, le paysage qu'il habite, il le partage avec ceux qui regardent ses pastels. Donc ici, nous en avons 5 et nous les présentons avec des masques de l'Alaska, des masques d'artistes contemporains qui sont de l'île de Kodiak pour la plupart. Et Jean Mallory a pu nous dire qu'il était très heureux, justement, que ses œuvres contemporaines d'artistes de l'Arctique puissent cohabiter avec son propre travail.
Alors, vous disiez aussi qu'il avait été, Jean Mallory, impressionné de changer de médium, de passer au pastel. Pourquoi pensez-vous qu'il ait été presque intimidé face à cette technique-là ?
Nous avons tellement de grands artistes, il y a tellement de grands artistes de par le monde qu'il était intimidé. Il nous le disait justement à son séminaire de l'HESS, il nous disait « je n'ose pas ». Et il a fallu que les Inuits lui disent « mais si, osez ». Et c'est comme ça qu'il a commencé. Et alors, il ne prétend pas, il dit en riant « je ne suis pas Picasso ». Mais voilà, il dit quelque chose à travers ses pastels parce qu'il connaît ce monde et qu'il l'exprime ainsi.
Ce qu'on y voit quand on est en face, c'est aussi une grande spiritualité. Jean Mallory parle beaucoup de méditation, mais j'ai l'impression qu'on les ressent vraiment dans ces pastels-là.
Il dit que les Inuits lui ont appris à regarder, lui ont appris à méditer et à se laisser pénétrer par la force de la nature. Et en quelque sorte, cette spiritualité autochtone lui a permis de mieux comprendre le monde en faisant en lui-même silence pour que la nature puisse lui parler. Et il oppose très souvent nos sociétés qui veulent dominer la nature et l'exploiter, et ces sociétés qui vivent dans la nature et qui s'adaptent à cette nature.
On fête les 100 ans de Jean Mallory. Quel est son apport principal selon vous ?
La défense des Inuits, bien entendu, on pense au dernier roi de Thulé quand il a protesté contre justement la base américaine, mais ensuite la défense de tous les peuples qui étaient sans voix, qu'il a illustré à travers la magnifique collection Terre humaine. Et puis aujourd'hui, puisqu'il a écrit aussi une lettre aux Inuits de 2022, curieusement d'ailleurs, puisque c'est justement l'année de ses 100 ans, où il leur dit « résister ». Et donc c'est cet esprit de résistance, je crois, qu'il a réussi à insuffler dans la recherche et puis aussi dans la politique. On sait que maintenant les autochtones ont pris leur avenir en main et qu'eux-mêmes essayent de se défendre, mais il insiste pour que nous, en tant qu'occidentaux, nous puissions coopérer à cette résistance contre... On parle évidemment de la fonte des glaces en Arctique et de tous les faits nouveaux d'exploitation des ressources qui pourraient être associées à cette fonte des glaces.
Est-ce que vous pensez que ses activités artistiques ont nourri sa recherche ?
Oui, elles ont accompagné sa recherche 40 ans. 40 ans de Pastel, et deux séries. Alors une série qui a été publiée en 2020 par les éditions Elviso, et puis maintenant cette nouvelle série qui va faire l'objet certainement d'une autre publication et qui va être exposée donc après nous, peut-être à l'UNESCO, c'est en discussion, et ensuite en janvier, ça c'est une certitude, au musée d'océanographie de Monaco, auquel Jean Malaru a fait une donation importante au cours de l'année dernière.
Les mémoires de Jean Malaury, De la pierre à l'âme, viennent de paraître aux éditions Terre humaine chez Plon, et l'exposition à la Galerie Orenda se poursuit jusqu'au 27 novembre, ça c'est à Paris, et comme vous l'avez dit, les 25 pastels seront exposés au musée océanique de Monaco à partir du 12 janvier, parmi bien d'autres commémorations pour ces 100 ans de Jean Malaury. Merci beaucoup Joël Roskowski.
Et merci à vous Marie Sorbier, et puis aussi joyeux anniversaire Jean Malaury. Comme chaque soir, nous quittons ce studio, nous quittons Paris, non, parce que exceptionnellement, ce soir, une exception, nous sommes en ligne avec le comédien, performeur, metteur en scène, Yves-Noël Genot. Bonsoir.
Bonsoir.
Exception, car vous présentez votre dernier spectacle, Titanic, hélas, à la Pop, à Paris. Vous annoncez en effet que ce spectacle sera le dernier, que ce sont vos adieux à la scène, alors avec votre sens habituel de l'humour, de l'ironie, ces adieux à la scène se font sur la scène, dans une péniche. Pourquoi, Yves-Noël Genot, ces adieux ?
Parce que je dois gagner mon pain maintenant. C'est-à-dire que je ne vis plus de mon métier. Alors, il est temps de la reconversion. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, ne me demandez pas. Mais enfin, j'ai pensé que c'était temps d'arrêter. Ça faisait plusieurs années que je traînais un petit peu. Les choses, enfin, il y a moins de public, moins de propositions, etc. Donc voilà.
Mais chez vous, le désir est intact.
Chez moi, le désir est intact, oui, mais malheureusement, j'ai toujours besoin qu'il y ait un commanditaire qui ait envie que je fasse un spectacle, parce que sinon, je le fais pas. Peut-être je redeviendrai interprète comme j'étais avant. Mais la première fois qu'on m'a proposé de faire un spectacle, c'était Loïc Touzé à Nantes. Il avait une carte blanche dans un festival. Et ça a très bien marché, ça a tout de suite démarré tout, et ça m'a donné une liberté énorme. Mais je me souviens avoir pensé aussi, s'il ne me l'avait pas proposé, j'aurais sans doute jamais rien fait. Enfin, j'aurais continué à être interprète, mais j'aurais pas signé des choses, quoi.
Moi, j'ai comme beaucoup de spectatrices et spectateurs de très grands souvenirs de vos spectacles, Yves-Noël Genot, donc j'ai envie d'en avoir aussi à l'avenir. Vous vous définissez, vous, dans un texte paru sur votre blog, Le Disparateur, comme une actrice d'une autre époque. Est-ce que vous avez l'impression, justement, que cette fois-ci, l'époque fait que vous nous échappez ?
Oui, c'est vrai. Il y a tout un phénomène de roue qui tourne, ça c'est sûr. Enfin, moi, je suis pas très vieux, mais enfin, je peux avoir des sensations comme ça, bien entendu. Mais je joue un peu avec évidemment toute cette figure de l'adieu de l'artiste et puis de dépassement de l'artiste par des plus jeunes, etc. C'est évidemment très riche. Alors j'en joue beaucoup et. Et je me présente en effet comme une actrice. Ça a été soufflé par un ami, ça. Donc, non, qui m'a dit, toi, tu es une actrice. Pourquoi pas?
Vous avez travaillé, vous l'avez dit, comme interprète, et notamment au début de votre carrière avec Claude Régis, qui demandait à ses acteurs d'à la fois parler et se taire. Est-ce que c'est une définition de ce que devrait être le théâtre, selon vous?
Non, moi je répondrais plutôt comme Madeleine Renaud. Non, il me semble que le théâtre, non, ça n'a pas grand-chose à voir avec la mort, c'est plutôt avec la vie. Elle disait, mais moi si je pensais à la mort, je resterais dans ma chambre sans rien faire. Il me semble, non, le théâtre, c'est la vie. Non, je joue un peu sur bien sûr que c'est à voir avec la mort et Duras et Régis, etc. Mais je joue un peu là-dessus, sur les contraires. Mais en effet, je fais allusion à Claude Régis parce que travailler sur les contrastes, il fallait être à la fois vivant et mort sur son plateau. voilà, c'était sa poétique, c'était ça qu'il trouvait beau. Et c'est-à-dire que ça résonne un peu avec l'histoire de la fin du monde actuelle, qui est d'ailleurs une histoire qui n'est pas si nouvelle non plus, parce que quand il montait la chevauchée sur le lac de Constance en 1974, c'était aussi une pièce de Peter Handke qui, où les personnages étaient sur une fine pellicule de glace sur un lac et étaient déjà morts, étaient déjà perdus. Et puis moi, quand j'étais adolescent, Marguerite Duras prédisait souvent la fin du monde, mais j'avais toujours envie de lui dire, ce que j'ai jamais fait parce que j'aurais jamais osé, mais j'avais envie de lui dire, mais pour vous, bien, ça va être la fin du monde dans peu de temps, c'est vrai, mais pour moi, ça me mettra un peu plus de temps. Donc voilà, c'est des jeux comme ça avec les fantasmes de l'époque, les peurs de l'époque, et puis aussi la fin individuelle, quoi, qui le rapprochement de la mort, enfin de. Mais c'est un thème très riche, donc le texte est presque fait que de citations, en fait. Il passe d'une citation à l'autre, parce que ça afflue dans cette catégorie.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander, de quoi était composé le texte de Titanic, hélas. Ça commence comment ?
Ça commence avec une scène de deux personnages que j'ai amené un petit peu là-dedans. L'un chante « Faisons l'amour » avant de nous dire
adieu.
Oui. Donc c'est une petite vignette comme ça du genre de choses que je faisais quand je travaillais avec du monde. C'est toujours ce que j'ai préféré, travailler avec du monde. Mais là, c'est quand même un stand-up. Alors après, c'est moi qui tiens le crachoir pendant une heure et demie. Et puis ils reviennent plus tard, un petit peu quand même. C'est de là, magnifique.
Vous évoquiez Madeleine Renaud, Yves-Noël Genot, mais est-ce que vos adieux seront un peu comme ceux de Lynn Renaud? Ils vont durer des années.
Mais je ne demande que ça, Arnaud. Mais enfin, comme je vous dis, ça ne dépend quand même pas de moi. il faut des producteurs pour tout ça. Il faut des gens que ça intéresse. Sinon, non. Je ne sais pas. Non, franchement, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aurait quelque chose qui rebondira, mais je n'en sais rien du tout. C'est juste très banal, en fait, cette situation, parce que c'est juste, ça arrive à tout le monde, de ne plus avoir de travail, de devoir en chercher, etc. Alors moi, je veux bien continuer un peu à être intermittent du spectacle, parce que c'est un statut quand même très généreux, il me semble, par rapport à d'autres statuts, je ne sais pas, c'est ce que je pourrais faire d'autre. Mais je ne sais pas à quel poste, enfin peut-être, voilà, je ne sais pas. D'ailleurs, le passé ne m'intéresse pas, il ne m'intéresse que le présent et un tout petit peu l'avenir. Ça, c'est une phrase de Madeleine Renaud aussi.
Alors un tout petit peu l'avenir, il faut souhaiter que producteurs, patrons de théâtre, tourneurs se ruent à la Pop 61 Quai de Seine du 25 au 27 novembre pour découvrir Titanic, hélas, et que ses adieux durent très très longtemps. Merci Yves-Noël Genot. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Spino, Anouk Minaudier, Lucille Gaumont, Marie Sorbier et Apolline Limosino.